De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, une demi-heure de cinéma avec des réalisateurs et puis des chroniques de films et des films pas toujours bons, Marine.
En effet, alors pour ma part aujourd'hui, ce sera eh bien Mauvaise Herbe et Bon Curry, j'ai envie de dire. Mauvaise Herbe, c'est le dernier film de Cairon qui est vraiment pas réussi. Et en revanche, on a une très bonne surprise qui nous arrive d'Inde, c'est Mumbai Murders.
Et on parlait d'épices, mais avec une voix un peu faible, Manu, tu vas nous parler de quel film?
After My Death, un excellent film coréen, et puis le remake de Suspiria.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai des Filles du Soleil et de Amanda, et ce sera l'occasion d'écouter la réalisatrice des Filles du Soleil, Eva Husson, qui était à Cannes, et puis Michael Hirst, le réalisateur d'Amanda, mais on débute avec un thriller indien.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Et c'est donc Mumbai Murders de Anurag Kashyap. Dans les années 60, un fait divers a secoué New Delhi, qui s'appelait encore Bombay et donc Mumbai. Un serial killer nommé Raghman Raghav a avoué une quarantaine de meurtres. Comme l'annonce justement le film dans son introduction, ceci n'est pas son histoire. L'histoire de Mumbai Murders se déroule de nos jours et suit un SDF fasciné par ce serial killer qui reproduit son parcours en tuant au hasard dans les quartiers populaires à l'aide d'une barre en fer. Le titre indien du film est d'ailleurs Raghman Raghav 2.0. Il va croiser un jeune flic et ainsi nouer une étrange relation avec lui entre haine et fascination. Alors ce film, c'est l'anti-Bollywood que l'on attendait, et pour cause, Mumbai Murders fait même davantage penser à un polar coréen. Sans doute pour les meurtres à la barre de fer, pour le fait que l'on connaisse le meurtrier dès le début, pour les ruptures de ton et pour le cynisme qui surgit lorsqu'on ne l'attend plus. Le film est malsain, dérangeant, et c'est totalement volontaire et réussi. Il nous jette au milieu d'une galerie de personnages ambivalents. Le serial killer devient au fil de l'histoire presque attachant dans sa monstruosité. Le flic cocaïnomane qui le traque devient quant à lui de plus en plus terrifiant. Et les michetonneuses qui l'entretient passent de bourreau à victime. L'enquête nous emmène des boîtes de nuit de Bombay jusqu'à ses bidonvilles, le tout baignant dans une atmosphère plutôt surprenante, rythmée de passages musicaux, alors non, toujours pas de chorégraphie et d'envolée bollywoodienne, qui débarquent de façon très décomplexée au moment où on les attend le moins. Le film est une véritable surprise. On pense également à Zodiac pour son rythme lent, car Mumbai Murders dure 2 heures et pour cause, si l'enquête est anti-spectaculaire au possible, l'intérêt est ailleurs, dans la relation entre l'inspecteur de police et le serial killer traqué, dans la façon dont l'enquête va finalement rendre le flic aussi mauvais que le tueur qu'il pourchasse. C'est un film à ne pas rater, c'est très réussi. À déconseiller aux âmes sensibles hein, quand même, car c'est profondément dérangeant, mais il laisse vraiment présager le meilleur pour le cinéma indien dans les années à venir. Il a été montré à la quinzaine des réalisateurs en 2016 à Cannes, en 2016. Alors je ne sais pas pourquoi il a mis autant de temps à être distribué en France.
Je
crois qu'il y a assez peu
facile,
de copies. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus je crois que, à part moi, il y a d'autres critiques qui sont vraiment très élogieuses. C'est un film à ne pas rater, c'est très surprenant, c'est très réussi.
Eh bien, merci Marine. Et ce film est en salle depuis le 21 novembre, mais pas forcément sur tout le territoire. Maintenant, eh bien, on va en Corée du Sud, entre réalisme et onirisme.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Alors, premier long métrage d'un ancien assistant de Na Hong-ji, le réalisateur de The Strangers. After My Death se laisse difficilement apprivoiser, dévoilant au détour de quelques plans sa nature profonde. Le film avance masqué, investissant un genre puis un autre pour véritablement lâcher la bride dans un dernier quart d'heure à vous glacer le sang. Alors le début laisse augurer, on va dire, un classique polar ayant pour cadre les années lycée, espace-temps idéal de tout un pan du jeune cinéma coréen permettant d'aborder en parallèle du teen movie en rigueur, d'autres sujets plus douloureux. Une élève, Kyung Min, est portée disparue. Son sac à dos a été retrouvé à côté d'un fleuve situé près d'un tunnel. Elle était en compagnie de deux amis, dont Young Hee, suspecté comme responsable de ce qui s'apparenterait à un suicide. Alors, After My Death frappe dès ses premières images nimbées de couleurs froides par la précision de la mise en scène qui croise un naturalisme blafard et une sophistication des cadrages et des mouvements de caméra. Kim Hui-seok adopte un style très affirmé qui lui permet de s'affranchir des conventions du thriller formaté et de dériver vers des contrées plus audacieuses. Alors l'enquête policière, sans être, on va dire, un prétexte, est néanmoins rapidement reléguée en arrière-plan pour se focaliser sur les réactions de l'entourage face à la disparition. Alors c'est surtout le cas de Young Hee, figure spectrale et puissante d'une intrigue qui va progressivement s'affranchir du réel. Le drame intime, alors centré autour de la question du suicide, fléau d'une jeunesse coréenne dépressive, glisse d'une situation de crise ancrée dans une réalité palpable vers le film de fantôme, sans que jamais la dimension surnaturelle ne soit explicite. Et pourtant, certaines séquences comptent parmi, et c'est assez rare pour être signalé, on va dire, dans un film qui n'est pas fantastique, parmi les plus terrifiantes vues sur un écran depuis un moment. Alors, toutes sont liées d'ailleurs à la présence de Young Hee qui se métamorphose sous nos yeux, passant d'un état à un autre. Alors, surtout, bon, il y a un exemple, la folie furieuse de la lycéenne qui, dans une danse spectrale proche de la transe, elle s'asperge d'essence après la cérémonie funéraire de la fille suicidée. C'est une séquence absolument hallucinante. Alors, appréhender After My Death comme une fable sociale pointant du doigt un système étouffant régi par le monde des adultes s'avère assez réducteur, d'autant que le film échappe très vite à sa dimension sociologique. Néanmoins, le suicide supposé de Kyung Min suscite un moment de panique chez les professeurs, déconnectés de l'univers en vase clos de leurs élèves. Ces adultes, plutôt pathétiques, craignant que l'homicide ne vienne entacher la réputation de l'établissement, évoquent l'état dépressif de la disparue. Alors son penchant, alors ça c'est assez drôle, pour de la musique triste des années 90, provenant d'Europe du Nord. Et oui, c'est bien connu. Alors j'ai cherché, je ne voyais pas trop à quoi il faisait allusion. Alors l'ironie mordante de la scène est assez représentative du cinéma coréen, scandé par ses ruptures de ton, toujours se délectant des mélanges de genres. La présence de ce trait d'humour en fait n'est qu'un leurre, laissant le spectateur respirer durant la première demi-heure avant de l'enfermer dans une spirale de noirceur jusqu'à l'épilogue effrayant. Rapidement, Kim Hui-seok, qui est également scénariste, se désintéresse du monde des adultes, hormis la mère de Kyung Min, impressionnante figure endeuillée, qui traverse le film tel un cancer symbolisant la mauvaise conscience de l'ami, voire l'amante de sa fille. Alors à quoi rêvent les jeunes filles, semble s'interroger le cinéaste, à la mort pour certaines d'entre elles, manière d'échapper à la morosité d'un réel déprimant. À l'amour aussi, car le réalisateur filme le déchirement d'un triangle amoureux, possible explication de la tragédie à venir, mais comme le film n'a pas d'explication finale, c'est à chacun d'interpréter, puisque le film ne s'enferme jamais dans un discours démonstratif et ne résout pas grand-chose finalement. Alors le récit fait de ruptures narratives, de va-et-vient entre présent et passé, de brusques éclats horrifiques, s'extirpe d'une réalité tangible afin de s'engouffrer au cœur d'un cauchemar de plus en plus anxiogène. Alors la dernière partie sidère par la capacité du réalisateur à introduire le sentiment d'effroi par un simple plan qui évoque vraiment le cinéma de Kurosawa. C'est un monde peuplé de fantômes, les adultes sont asphyxiés par les contraintes et les adolescents brisés par des rêves que le système s'échine à interdire. Le phénomène du suicide avait déjà été abordé par un autre réalisateur, Sonotion, qui s'appelait Suicide Club. Et je trouve que là, pour le coup, le film est encore meilleur parce qu'il nous emmène quelque part vers un no man's land, vers un endroit qui s'extirpe comme ça du réel. Et c'était vraiment un film vraiment formidable.
After My Death, en salle depuis le 21 novembre, comme Amanda, première interview de Cinérama.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Avec Amanda, prénom d'une jeune fille de 7 ans, Michael Hirst nous plonge dans un Paris touché par les attentats. Toutefois, les attentats ne seront jamais le sujet du film. Ce qu'a cherché le réalisateur, qui est parisien depuis toujours, c'est à transmettre une atmosphère, une ambiance, un moment particulier de sa ville. C'est donc un Paris du quotidien que l'on a à faire dans Amanda, avec le deuil d'un côté et la vie qui continue de l'autre. C'est Vincent Lacoste qui porte à bout de bras ce long métrage, qui avance lentement. Le comédien qui a sérieusement la cote en ce moment incarne David, qui à 24 ans est à l'heure des choix qu'il ne fait pas entre petit boulot et errance sentimentale. Et à la suite donc d'un événement dramatique, un attentat dans un parc où un pique-nique entre amis était organisé, eh bien on lui propose d'être le tuteur de sa nièce de 7 ans, Amanda. Entre deuil, reconstruction, interrogation, désir et quand même la joie, le film oscille au rythme du jeu de Vincent Lacoste qui donne sa cadence. Alors dans ce registre du quotidien qui se répète, l'école, les temps de jeu, les promenades, il donne une pulsation équilibrée jusqu'au dénouement. Au travers d'un pari attaqué, le réalisateur rend compte d'une époque et pas seulement à coup de plans vigipérates, mais aussi au travers des petits boulots de David, hein, puis, parce qu'il se fait concierge Airbnb. Voilà, donc ça c'est très inscrit dans l'époque. Quant à Amanda, la jeune fille, eh bien, il ne faut pas l'oublier, on la verra sonner, hurler, s'opposer et renaître. Deux séquences balisent le film qui abonde en répétition. Tout d'abord l'attentat qui suspend le récit dans une lumière glauque en plein silence. Le réalisateur parvient à nous frapper avec des moyens qui ne sont pas de l'ordre du spectaculaire. Et puis la scène finale qui rebondit avec une autre séquence autour d'une très belle anecdote concernant Elvis Presley. On écoute Michael Hirst.
J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule.
Tricheur !
On peut commencer par... peut-être par le projet. Comment vous êtes arrivé à écrire Amanda, sachant que vous êtes un réalisateur de la disparition, semble-t-il.
Ça venait de choses assez différentes. C'était l'envie de filmer ma ville, déjà, je suis parisien, et de capter quelque chose de la fragilité, de la violence, de la fébrilité, de l'électricité de ma ville, en l'occurrence dans cette période de post-attentat. C'était l'envie de parler de paternité. Là, en l'occurrence, c'est une paternité accidentelle par héritage. Il y avait l'envie aussi de faire un film autour de la figure d'un grand enfant et d'un petit enfant qui s'accompagnerait comme ça autour d'une disparition, d'un drame. Voilà, puis après tout ça s'agrège un peu mystérieusement et puis bon, allez, on commence l'écriture quand on a quelques pistes.
Comment c'est possible une chose pareille ?
Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux, j'ai tellement peur là, je...
Juridiquement, vous pourriez être son tuteur.
Donc un personnage meurt, c'est lié aux attentats. Est-ce que vous avez imaginé d'autres manières de le faire mourir ou alors c'était évident que vous alliez parler de ça, vous, en tant que Parisien ?
Non, c'était évident. Ça faisait partie, encore une fois, sans être un film qui serait totalement phagocyté par cette question et qui serait traité, on va dire, par le prisme de la... De la sociologie ou saturé d'un discours politique. C'était un film... la mort survenait par l'attentat et... pour le coup, ausculté à travers le prisme de la tragédie intime, d'un drame intime.
Avec le quotidien, vous faites émerger quelque chose d'assez surprenant, qui serait effectivement la vie qui traverse, la vie qui doit revenir. Par rapport au film qu'on connaît sur le deuil, j'ai l'impression que vous avez tracé une autre voie. Est-ce que ça, vous l'avez senti ?
Disons que ce que je voulais faire, c'est, même si le point de départ du film est évidemment très frontal, très dramatique, un peu lourd, c'est réussir à faire un film par lequel entre la lumière, quoi, qu'il ne soit pas totalement dénué d'espoir. Parce que, encore une fois, comme je dis, ce n'est pas un film sur les attentats, mais ce n'est pas non plus un film sur le deuil. Pour moi, le sujet d'un film doit toujours rester la vie dans ce qu'elle embrasse, avec une matière ambivalente, complexe, des sentiments qui sont... Mais ça reste un film sur la vie, oui.
Elle est où, la brosse à dents de maman ? T'es pas chez toi, ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses.
Amanda, elle a besoin de toi.
Parfois, j'ai l'impression que c'est plus elle qui est là pour moi.
C'est Vincent Lacoste qui donc incarne ce grand enfant qui va avoir la charge ou qui va devoir décider d'avoir la charge d'une petite fille, de sa nièce. Vincent Lacoste, est-ce que c'est ce comédien que vous avez toujours vu ?
Quand j'ai écrit le scénario, l'âge du personnage était un peu moins déterminé. Voilà. Et puis en discutant avec mon producteur, on s'est dit que vraiment... que l'âge de ce personnage-là, c'était le début de la vingtaine. Et dans cette tranche d'âge, c'est vrai que Vincent Lacoste, je ne l'avais pas forcément vu beaucoup jouer, mais il a un visage, il dégage quelque chose qui m'est qui me touche beaucoup. Je trouve qu'il a une faculté de déclencher l'empathie. Il a une beauté qui est à la fois très beau et en même temps, il y a quelque chose d'assez gauche. Il est très gracieux. Et voilà, il porte tout ça et j'avais l'impression qu'il allait pouvoir prendre en charge la lourdeur de ce film et lui apporter une forme, de quelque chose d'aérien et lui insuffler la lumière, la légèreté dont on a besoin aussi, le rendre supportable, en fait, quoi.
Tu penses qu'on va réussir à supporter ?
Tous les jours ?
Tous les jours.
On verra bien.
Amanda, Michael Hirst, un film en salle depuis le 21 novembre, c'est le cas aussi de Mauvaise Herbe de Cairon. Alors Mauvaise Herbe et mauvais film, on va le savoir.
Avez-vous remarqué ?
remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement.
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant.
Ok, je vais essayer.
Non, non, t'essaye pas. Tu fais en sorte.
Bonjour.
Après Nous trois ou rien, qui a été un gros succès en salle, et c'était pas franchement mérité car le film, faut le dire, était quand même gavé de bons sentiments et pas franchement novateur en termes de comédie. Après Nous trois ou rien, donc Kéron, humoriste et réalisateur autoproclamé, continue son égo trip dans Mauvaises Herbes. Ici, Kéron, donc qui réalise mais qui joue également, est un jeune, enfin plus si jeune, loser de banlieue, Wael, qui vit avec Monique, jouée par Catherine Deneuve, une retraitée avec laquelle il monte de petites arnaques. De fil en aiguille, il se retrouve à devoir aider Victor, interprété par André Dussolier, qui devait avoir des impôts à payer pour accepter ce film, et où elle va devoir s'improviser, eh bien, éducateur pour un petit groupe d'enfants. Et devinez quoi ? Eh bien, Kéron va sauver ses enfants et résoudre tous leurs problèmes. Alors, si les premières scènes d'exposition sont passables, hein, la suite du film vire à l'insoutenable assez rapidement. En dehors de son manque évident de connaissances techniques, autant vous dire que la mise en scène fait mal aux yeux, Kéron est obsédé par une seule chose, mettre en valeur son humour. Alors oui, les dialogues fusent, on ne s'ennuie pas, dommage que ce soit toujours Kéron qui ait les bonnes blagues et que ses partenaires de jeu soient relégués au rang de faire-valoir. Et puis la notion de feel-good movie atteint ici un stade de bien-pensance rarement égalé. On passera sur le gentil casting, hein, composé d'une jeune juive, d'un arabe, un noir, un gitan et un pakistanais. On se dit d'abord non, il n'a pas osé. Si, si, il a osé. On passera sur le problème d'inceste qui se règle en un seul texto. Mais alors par contre, on ne peut pas laisser passer cette histoire d'ado qui vend du shit parce qu'il y est poussé par un flic corrompu. Non, là c'est au-dessus de mes forces et je pense des forces de tous les spectateurs. Si Nous trois ou rien pouvaient se targuer de la présence de Léla Bekti, dont la force de jeu portait les autres comédiens, ici, Kéron, qui n'est déjà pas un excellent acteur, forme avec Catherine Deneuve un binôme assez catastrophique. D'un côté, Kéron semble s'acharner à vouloir descendre l'icône Deneuve de son piédestal. Le film commence notamment par une joute verbale entre les deux protagonistes, au cours de laquelle il lui répète de toutes les façons possibles qu'elle est vieille. Quelques scènes plus tard, cette comédie hautement subversive le montre en train de lui masser les pieds, on dirait quasiment une scène christique. Et encore un peu plus tard, eh bien voilà qu'il la déguise en prostituée de la rue Saint-Denis. Le problème dans tout ça, c'est que Catherine Deneuve ne prend aucun plaisir manifeste à jouer. Elle est totalement désincarnée, elle se fout complètement d'être là. Et cela fait quand même plusieurs films, je pense notamment à Tout nous sépare, avec le rappeur Nekfeu, qu'elle essaye de remuer un peu son personnage d'actrice bourgeoise, mais bon... Dans Actrice bourgeoise, il y a quand même actrice. Et là, je crois qu'elle devrait simplement arrêter de jouer, tout comme Kéron devrait arrêter de tenter de faire des films.
Et Dussolier payer ses impôts autrement. Donc,
voilà. Et à la limite, c'est le moins pire du trio, mais vraiment, les deux, Catherine Deneuve et Kéron, mon Dieu, quelle erreur. Donc, ne faites pas l'erreur d'aller voir le film, en tout cas. Ne perdez pas 2 heures de votre vie pour cela. Et ne leur donnez pas d'argent.
Eh bien, ne perdez pas non plus trop de temps avec Les Filles du Soleil, mais on va quand même en parler.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
C'était sans doute le plus gros ratage de Cannes. Les Filles du Soleil d'Eva Husson y étaient en compétition. Alors sur le papier, pourtant, tout sonnait juste. Une femme qui nous parle des combattantes kurdes contre Daesh. Sur le front, et plus particulièrement de personnages ayant pu se libérer de leur esclavage sexuel et qui forment un redoutable bataillon. Pour mettre en scène ce bout d'histoire, parce que ces combats ont lieu maintenant, la réalisatrice, qui avait brillé pour son premier long-métrage Bang Gang, une histoire d'amour moderne. Alors, on s'impatientait, mais la douche fut froide. Pour nous parler de ces combattantes, Eva Husson fait intervenir une femme reporter qui s'inspire notamment du travail de Mary Colvin, une journaliste américaine décédée en 2012 en Syrie lors d'un bombardement à Homs. Alors, interprétée par Emmanuelle Berko, cette journaliste est un catalyseur, un prisme et un témoin qui permet de structurer le récit. Pour son projet, rendre une visibilité aux femmes kurdes, Eva Husson revendique la subjectivité, ce qui signifie que lieux, personnages et même batailles ont été changés. Alors, pourquoi pas ? Eva Husson ne cherche pas à coller à l'histoire, même si certains le déplorent. Mais c'est surtout dans ses procédés filmiques que la réalisatrice française échoue à rendre son histoire intéressante ou au minimum digeste. Les flashbacks, la lumière dans les teintes jaunes, les séquences d'émotions ou de combats surlignées par la musique, mais vraiment surlignées, tout cela donne de l'emphase et transforme le film de guerre en mélodrame. Même si la réalisatrice semble vouloir mettre en avant ces femmes et leurs combats, elle gomme l'aspect politique pour privilégier les éléments romanesques. Ainsi, tout tourne autour de deux personnages, celui de Goldshifteh Faharani, la chef des combattantes, qui veut revoir son fils qu'elle pense séquestré dans une école d'un village et qu'il faut donc libérer à tout prix. compris, est celui de la journaliste qui aimerait se réconcilier avec sa fille. Alors, il s'en dit des choses, mais les dialogues alimentent davantage la fiction qu'elle n'éclaire une situation bien réelle en Syrie. On écoute tout de même Eva Husson, qui parlera d'ailleurs de la doctrine d'Öcalan, le leader kurde, chose qui n'apparaissent pas dans le film, dans mon souvenir. Voilà, c'était à Cannes.
Mon désir premier dans ce film, c'était de parler des femmes. Et j'avais besoin qu'on puisse se concentrer là-dessus. L'écho qu'a fait en moi cette histoire de femmes kurdes qui étaient capturées, qui sont échappées, qui se sont engagées. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette force qu'elles montraient, ce refus d'être à genoux, ce refus d'être réduite à des choses qu'elles n'acceptaient pas, et la reconquête de leur dignité. Et cette idée que la victoire passe d'abord par la lutte, et qu'elle est essentielle, et la lutte en elle-même est une victoire.
Mon unité est un peu différente des autres. Les filles sont toutes anciennes captives.
T'as fait quoi comme étude ?
J'étais avocate.
Ça te manque ?
C'est pas ce qui me manque.
Il y a une personnalité très très importante chez les combattants kurdes qui s'appelle Öcalan et qui est prisonnier politique en Turquie depuis des années et qui a peu à peu élaboré une doctrine marxiste et féministe parce qu'il s'est rendu compte que la société ne pouvait pas être libérée comme elle devait l'être, autant qu'elle pouvait l'être, tant que les femmes ne le seraient pas. Et il s'est rendu compte qu'il vivait dans une société extrêmement patriarcale, qui est la société kurde, qui à la base est extrêmement patriarcale et dure. Et il a élaboré en fait des camps d'entraînement pour les femmes et les hommes, où il donne des cours de féminisme. Mais je trouve que la démarche est remarquable et très singulière.
Comment t'en es venue à t'engager ? C'était ma seule chance de retrouver mon fils.
Moi, ce qui m'intéressait d'un point de vue cinématographique, c'était d'avoir un socle, une fondation très solide de base de documentation. Et à partir du moment où je me sentais sûre de ce socle, de pouvoir y introduire une subjectivité. Je crois beaucoup en la magie de la subjectivité au cinéma. Je pense que c'est comme ça qu'on fait les plus beaux voyages en tant que spectateur. Et c'est pour ça que j'ai changé aussi les noms de lieux, de places et de personnages. Je prétends absolument pas à la moindre objectivité. Ceci n'est pas un documentaire et pas un document historique. Ce que je trouve intéressant à transmettre au spectateur, c'est une partie de mon ressenti du monde. Et le cinéma est un médium merveilleux pour ça, parce qu'on a accès à une temporalité qui n'est pas la sienne, on a accès à une sensibilité qui n'est pas la sienne, et qui n'est pas forcément d'ailleurs la mienne, mais qui est celle aussi que j'ai ressentie quand j'ai discuté avec ces femmes, avec leurs expériences. Quand on est en temps de guerre, on ne pleure pas tout le temps, on n'a pas tout le temps mal. Il y a l'attente, il y a l'ennui, il y a les moments d'exaltation, il y a l'humour, il y a la vie qui intervient, les bébés qui naissent. C'est bordélique, c'est le chaos. La fiction est un moyen idéal de véhiculer ça, puisque un documentaire n'aurait jamais pu s'infiltrer. Il n'y a aucune femme reporter qui va risquer sa vie et son intégrité physique pour aller devenir esclave sexuelle.
Qui devait étonner mon âme ?
Voilà, mise en scène agaçante un peu pour les filles du soleil, mais il y a des choses à apprendre. C'était Eva Husson dans Cinérama. Maintenant, on se demande si l'original était mieux avec Suspiria.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Elle veut entrer en moi. Je la sens. Elle peut me voir.
Alors, l'annonce d'un remake du chef-d'œuvre de Dario Argento a suscité de nombreuses réactions à vif, en majorité négatives, voire extrêmement virulente. Alors comment s'attaquer à un tel monument, trip visuel qui s'inscrit dans une époque et un courant baroque unique ? Comment retrouver ces écrans de couleurs démentes, ces décors en trompe-l'œil hallucinants tout en essayant d'innover ? Alors la crainte du copier-coller a déchaîné un temps les réseaux sociaux, mais s'est rapidement dissipée avec l'annonce de l'Italien Luca Guadagnino aux commandes, une sorte de super auteur à la mode, courtisé depuis le succès de Call Me By Your Name. Alors, Au moins, peut-on savoir gré au réalisateur de ne pas capitaliser sur l'aura culte du film de Dario Argento en y reproduisant sans inspiration ses motifs esthétiques. Au contraire, le cinéaste s'évertue pendant 2h32, c'est un peu long quand même, à prendre le contre-pied de son modèle de façon scolaire et appuyée, mais parsemée de réels moments d'inspiration et de grâce. La trame reste à peu près inchangée, même si les scénaristes l'ont étoffée avec quelques sous-intrigues inexploitées et inutiles. Suzy Bagnone, une jeune danseuse américaine incarnée par une très convaincante Dakota Johnson, débarque dans le Berlin chaotique de 77 dans l'espoir d'intégrer l'école de danse d'Elena Marcos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, l'engage, à moins que ce soit pour une autre raison. Évidemment, cette compagnie cache un lourd secret, auréolé d'ésotérisme, de mysticisme et d'alchimie. Elena Marcos serait donc une sorcière poursuivant un but bien précis. Alors c'est ce que cherche un vieux psychanalyste juif qui mène une enquête, absente dans la version d'Argento d'ailleurs, tout comme les allusions au terrorisme, à la bande à Bader, qui sert un peu de toile angoissante, mais un peu gratuite à cette relecture arty. Entouré d'excellents techniciens, notamment le chef-op Sayombu Mukdiprom, fidèle collaborateur de Waraz Etakul, mais aussi, oui, j'arrive à le dire là, mais aussi Walter Fasano, qui est aussi monteur pour des films d'Argento, et Tom York en tant que compositeur, le réalisateur parvient par intermittence à subjuguer à l'image de la première scène de danse filmée en parallèle du premier meurtre, évoquant les chorégraphies de Pina Bausch. Le montage syncopé, limite tranchant, dynamise ce grand moment immersif. Vision hallucinée d'un corps désarticulé et lacéré, dos brisé, filmé simultanément avec celui en transe de l'héroïne. Hélas, ces fulgurances plastiques sont noyées au cœur d'un récit obscur et prétentieux. Certains défenseurs parlent d'ambition, mais le ridicule achevé de l'épilogue, où le gore décomplexé s'invite à la fête, aurait tendance à jouer en faveur de la première hypothèse. Mais si on oublie cette fin ratée, où la grande prêtresse Elena Marcos ressemble à un crapaud visqueux à lunettes noires, genre un peu Elton John, moi, j'ai pensé. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi. Suspiria, version 2018, recèle de quelques trésors cachés, invente des figures stylistiques, s'éloigne du baroque initial pour en retrouver un autre proche du cinéma de Zulawski, allant s'amuser chez Bergman de cris et chuchotements. Alors, Suspiria, pour finir, vaut mieux pour ses parties que pour son tout. Guadagnino signe une œuvre inaboutie, bancale, souvent imbue d'elle-même et assez fascinante quand on y repense, dans cette manière butée d'aller contre l'original, où se croisent de nombreuses actrices cultes comme Ingrid Cavan et Jerry Fassbinder, Jessica Harper qui était dans l'original qui reprend un tout petit rôle, et aussi Sylvie Testude, que j'ai pas reconnue du tout, et qui se prend un coup de crayon dans le cou. Mmh. Voilà, t'es curieux, voilà. Je voulais finir par ça parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait Sylvie Testude.
Eh bien, merci Manu. En tout cas, Call Me By Your Name, autre film du réalisateur, celui-ci, je le conseille à 100%. Allez, on voit Racisme et émancipation d'une Laponne pour terminer.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On peut encore saluer l'invention des distributeurs français qui ont transformé le titre Sami Blood, qui signifie le même sang en suédois, pour Sami, une jeunesse en Laponie. Un titre qui gomme une grande partie de ce film d'une grande maîtrise réalisée par Amanda Kernell. La réalisatrice suédoise revient sur les relations entre le peuple appelé péjorativement Lapon, qui vit dans le nord du pays, et les Suédois au cours du XXe siècle. Donc ce sont les Samis. Le film débute avec une certaine Christina, une vieille dame que son fils emmène à un enterrement, mais lors de ce prologue, elle coupe l'autoradio qui crie des chants samis, refuse le contact avec les semi-nomades, se met d'accord avec un groupe de Suédois pour dire que les Samis ne sont pas comme eux. Alors n'en jetez plus, le rejet est bien présent. Ce qui nous intéresse, c'est le grand flashback qui suit ce prologue et qui nous emmène dans les années 30. Christina est devenue Elle Marja et va sur ses 14 ans. Avec son allure un peu ronde, son regard frondeur, cette jeune fille va tout faire pour rompre avec sa tradition, renier son identité pour ne plus être un animal de cirque, soit insulté par les Suédois ou étudié par les scientifiques qui considéraient sa race inférieure. Et d'ailleurs, quand on dit étudié par les scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques débarquent à l'école et prennent des mesures de la boîte crânienne et ainsi de suite. Opposition, fuite, mensonge, courage et intelligence, la jeune fille va tout faire pour devenir une Suédoise comme sa blonde institutrice. La réalisatrice elle-même d'origine Sami nous montre autant le racisme, donc dans cette fameuse scène sidérante à l'école, que l'émancipation, celle d'une jeunesse qui se bat contre un monde figé. Elle offre également un témoignage sur le monde Sami que le cinéma principalement suédois, qui devrait s'en inquiéter, est bien sciemment écarté. Le film est tout autant porté par l'interprétation de sa jeune héroïne que par une mise en scène adroite qui mêle didactisme, on apprend des choses, sensibilité sur un sujet délicat comme beauté et étrangeté des paysages. Sami, une jeunesse en Laponie, d'Amanda Kernell, est un film que je recommande vivement.
C'est fini ?
Eh bien,
Oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Bon, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, encore une interview et pas forcément d'un très bon film.
Tout à fait, ce sera l'interview de Frédéric Tellier, réalisateur de Sauver ou Périr, le nouveau film avec Pierre Niney.
À toi Manu.
Et moi j'aurai deux films, Diamantino et puis Les Héritières.